Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans Radio Foot International pour cette soirée Ligue des Champions qui se prolonge encore un petit peu avec nous et avec bien sûr les résultats. Nous avons eu une soirée plutôt bonne, des buts, du suspense, les quarts de finale commencent plutôt bien, en tout cas pour ce qui est d'aujourd'hui, et avec deux victoires, le Real Madrid vainqueur face à Liverpool 3-1, avec un doublé du Brésilien Vinicius, les Merengues à l'expérience, alors que les Reds ont eu du mal, surtout en première mi-temps, avantage logique donc au Real de Zidane. Rémi Ngono, bonsoir. Ça vous met en joie, ça?
Ah, mais bien sûr! Ah, oh, super voix! Je suis dans la joie!
Vous n'avez
une
jamais
joie
douté!
Immense! Je suis dans. Ah, voilà, c'est bon!
C'est parti! À Manchester, les Citizens victorieux des jaunes et noirs 2-1, mais le Borussia Dortmund a très bien résisté. Manchester City devra être plus fort au match retour en comptant sur le jeune et excellent Foden, mais le capitaine et buteur allemand Reus, Marco Reus, et puis Haaland n'ont pas dit leur dernier mot, n'est-ce pas Bruno Constant? Bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir hein, à tous.
City.
Oui, je suis
City.
Un peu moins enthousiaste que Rémi. C'était une petite soirée pour les Anglais, mais bon. Voilà, on va s'en contenter pour le moment. Ouais. On est qu'à la moitié du match, hein, de toute façon.
De toute façon, oui. Il y a encore un retour, même si on ne sait plus dans les temps qu'on vit. De la provocation vient de quand tout de suite. Et puis, vous saurez tout sur les finalistes du prix Marc-Vivien Foé, qui sera désigné le meilleur joueur africain de la Ligue 1 cette saison. La liste des 11 finalistes, eh bien, vous l'entendrez tout à l'heure. Nous l'avons donnée dans la première émission de Radio Foot International. Et nos consultants vous donneront leur avis. Et puis nous avons un renfort, nous avons Hugo Moissonnier. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Annie, bonsoir
vous
à tous.
Vous avez forcément un avis sur tous ces joueurs africains de la Ligue 1 dans
je
le
11
type.
Pour moi pour l'instant, j'ai pas encore le droit
évidemment,
donner ma préférence.
On aura juste le droit de donner nos avis puisque nous votons. David Finzel est là bien sûr et m'a aidé à préparer cette deuxième édition. Laurent Salerno, lui aussi, est là aux manettes. Radio Foot, c'est parti.
Attention à Vinicius, le face-à-face à venir. Et c'est l'ouverture du score pour le Real Madrid.
Oh, qu'il est beau. Ouf. Oh, il est magnifique. Il est magnifique dans le dos de la défense. Vinicius contrôle enchaînement.
Ouh, là c'est cadeau. C'est cadeau pour Asensio.
Qu'est-ce qu'ils font?
Oh, c'est cadeau! C'est cadeau de la part de la défense de Liverpool, Alexander Arnold!
36e minute, 2-0. La réduction de l'écart, Mohamed Salah, après ce petit coup de billard, l'Égyptien qui a récupéré le ballon dans la surface de réparation du Real. Des Reds qui reviennent dans ce match, mine de rien, il fallait pas les enterrer.
Benzema, la lutte avec Robertson, le ballon pour Modric. Modric avec Vinicius.
Oh, il y est. Oh, il y est. Oh, superbe. Superbe au premier poteau de la part de Vinicius. C'est sa soirée.
Et le doublé pour Vinicius, servi par Modric à l'entrée de la surface de réparation. Alors, pour le Real.
A parte que eu peço aquele vinho do bom. Sim. A taça não merece tirar seu batom.
Il aime chanter avec son ami, le compositeur brésilien Felipe Araújo, et il a peut-être chanté dans le vestiaire, puisque c'est sa soirée quand même. En effet, un doublé pour le jeune attaquant brésilien du Real Madrid ce soir, Vini, comme il est écrit sur son maillot, Vinicius. Et déjà, la presse espagnole lui fait sa fête, cette presse en ligne ce soir. Vinicius dirige le bal, écrit notamment Marca. Il y a eu aussi un but donc d'Asensio, la jeune garde devant les anciens pour délivrer les passes décisives au millimètre. Rémi, est-ce que c'était la soirée parfaite pour le Real ?
Oui, elle était parfaite, d'autant plus qu'elle paraissait imparfaite de par la mauvaise nouvelle qui nous était annoncée avec, bien sûr, le forfait de Varane.
Alors, et forfait, dire qu'il y avait déjà... Rappelons-le, parce qu'il a été déclaré positif au virus.
Il y avait déjà ça, mais en même temps, la soirée aurait été hyper excellente si jamais cet arbitre n'aurait pas refusé deux pénaltys évidents au Real Madrid. Il faut quand même se dire, oui, deux.
Carrément.
Première, vous savez.
Est-ce qu'il aurait dû accorder du coup le deuxième but avec la faute sur Mané?
Première des choses, et je vais dire.
Non, mais est-ce qu'il aurait dû accorder le deuxième but ou pas?
Il y a quelle faute là? Il n'y a aucune faute.
Il n'y a pas de faute sur Mané au départ de l'action.
Attendez, je vais plutôt dire que lorsqu'on essaie de regarder la suite logique du match, première des choses, vous voyez que Karim Benzema, qui est sur le point de tirer, eh bien,
en met pénalty, direct. Je suis entièrement d'accord.
Voilà. Donc vous voyez déjà que.
Je dis juste que si on siffle ce pénalty là, il faut aussi siffler la faute sur Mané juste avant le deuxième but.
Mais je voudrais te poser une question. Est-ce que tu as vraiment regardé le match? C'est vrai quand même que tu étais en train de venir déjà en studio.
Oui, j'ai regardé le match.
Parce que. Parce que tu n'as pas vu la faute sur Mané.
Tu n'as pas vu la faute sur Mané? T'as pas vu la faute sur Sadio Mané?
Ah non, mais vous voulez donc.
Un coup d'épaule dans le dos.
La faute sur Mané, c'est fait à l'extérieur de la surface.
Peu importe, très loin. Peu importe, c'est au début de l'action.
C'est très loin de la surface. Donc si vous me dites en coup de, le coup d'épaule de par exemple d'ailleurs je crois que c'est Vasquez qui fait ce coup d'épaule là, mais au-delà de ça, je dis bien que lorsqu'on regarde la maîtrise du match, retenez quand même que votre équipe n'a eu qu'un seul tir cadré.
L'Oréal, c'est
15 tirs dont 7 cadrés. Donc, dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau du pressing, au niveau des débordements, au niveau des corners, il n'y a pas match. Et je dis bien que c'est parce que Asensio a fait beaucoup d'ascenseurs pour ne pas monter finalement au ciel qu'il aurait pu éteindre complètement ce match-là.
Il a raté pas mal.
Certes, oui, il a marqué un très beau but avec l'aide de pigeon, mais néanmoins, le fait d'arriver à la surface de réparation et de tomber seul, c'était quand même un peu hallucinant. Mais quand on voit quand même cette équipe du Real qui a eu toute cette maîtrise, on ne peut que dire que bravo.
Bon, alors qu'est-ce que vous dites, vous, Bruno Constant, de ce match?
Mais moi, je suis d'accord.
Est-ce que la prestation du Real vous a surpris? Parce qu'il n'y avait finalement plus la défense centrale qui donne tant d'assurance. Alors, Ramos, ça fait quelque temps déjà, mais en plus, Varane.
Il n'y avait pas non plus la
Varane.
Défense centrale de Liverpool.
Ah oui, hein, alors ça, oui.
Ni Matip, ni...
Voilà.
En tout cas, ça pouvait... On pensait que ça pouvait peut-être équilibrer les débats. Et en fait, on s'est aperçu que... Et je suis d'accord avec Rémi, le Real a maîtrisé dans l'ensemble son match. Et puis surtout, on se posait la question de savoir quel Liverpool on allait voir ce soir. Est-ce que c'était le Liverpool des deux dernières saisons qui était flamboyant, champion d'Europe et champion d'Angleterre? Ou est-ce que c'est celui de cette saison qui est très laborieux, qui a une fébrilité défensive assez hallucinante et puis qui, devant, a perdu cette étincelle? On l'avait retrouvé un petit peu contre Arsenal ce week-end en Première Ligue.
Mais c'était Arsenal, exactement.
Et là, pour un niveau Ligue des Champions quart de finale face au Real Madrid... Forcément, c'était beaucoup trop juste. Il y a eu trop d'erreurs défensives sur les buts, notamment le deuxième, l'erreur monumentale de Trent Alexander-Arnold qui rate sa passe en retrait de la tête pour son gardien qui est intercepté. Et puis dans l'ensemble, les quatre défenseurs étaient en grande difficulté. Le terrain, ils ont été mangés.
Le placement des défenseurs et notamment de Trent Alexander-Arnold sur le premier but, il est catastrophique.
Absolument.
Ce Vinicius, son enchaînement est sublime, mais c'est pas tout à fait normal qu'à ce niveau-là, on puisse s'infiltrer dans le dos de la défense.
Je ne serais pas d'accord avec toi parce que à ce niveau-là, il faut savoir que celui qui fait la passe s'appelle Toni Kroos. Ce que vous oubliez quand même.
Oui, mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas être pris comme ça dans le dos.
Justement parce que Asensio, c'est une fusée. Et Zinedine Zidane a demandé qu'il joue dans cet intervalle-là. Or, Kroos fait une passe millimétrée. N'oubliez pas que lorsqu'on regarde toute la Ligue des Champions depuis le début de cette saison, on se rend quand même compte que Kroos est le milieu de terrain, ou même le joueur, qui a effectué 728 passes, dont 93% réussies à partir de son camp. Donc, il n'y a pas plus que ça. Et de surcroît, vous avez un Modric qui a aussi 628.
Il y a du talent du côté Real.
Ce qui fait la passe de Kroos, c'est surtout le mauvais placement de la défense. La défense est extrêmement mal placée sur cette longue passe. Elle ne peut pas être prise sur une longue passe comme ça. C'est pas possible. Et sur les deux buts, les deux points buts, il y a des erreurs énormes défensives de Liverpool. Et ça, il faut le reconnaître. Maintenant, après, sur l'ensemble du match, je reconnais que le Real était bien meilleur et on n'a pas retrouvé le Liverpool qu'on espérait.
Est-ce qu'on a la sensation, peut-être en regardant ce match, parce qu'on sait qu'il y avait pas mal d'absents aussi du côté du Real ou de joueurs qui n'étaient pas là, mais que finalement, cette transition entre les anciens et les nouveaux est en train de se faire dans les fêtes. Et on le voit dans un quart de finale avec Asensio, avec Vinicius, qui sont ceux qui marquent, même si Kroos, Modric et Casemiro sont évidemment là pour tenir le milieu de terrain. Rémi ?
Il y a une transition et surtout il y a ce qu'on peut appeler la marque Zinedine Zidane, parce que dans cette transition, il faut quand même se dire que Asensio a été beaucoup critiqué puisque plusieurs matchs, il ne marquait pas. Et subitement, Zinedine Zidane a continué à insister. Et du coup, vous regardez que dans les 11 derniers matchs, dans les 12 derniers matchs où vous voyez que Real ne perd pas, eh bien, Asensio est quand même le deuxième meilleur buteur. C'est-à-dire que avec 5 buts aujourd'hui, 5 buts derrière Karim Benzema qui est à 9 buts. Donc, Vinicius était à 1 but et là, justement aussi, il a été remis en confiance par Zinedine Zidane. Donc, pour moi, d'abord, j'ai toujours dit que c'est-à-dire que...
C'est l'alliage.
C'est cet alliage-là qui fait. Mais en même temps, on ne va pas seulement dire transition. Modric, c'est 35 ans.
Non, mais ils ont fait les passes décisives
jouent...
ce soir étaient extraordinaires.
D'ailleurs, et lui aussi, il a débordé ce soir. Il a atteint ce soir, dans le total aujourd'hui, il a atteint 710 passes. C'est-à-dire que le Real Madrid, en Ligue des Champions, a donc les deux meilleurs passeurs, ceux qui savent cuisiner le milieu de terrain.
Est-ce qu'on a retrouvé la maîtrise, Kroos, Modric, Casemiro? Est-ce qu'on a retrouvé la maîtrise des trois Ligues des Champions consécutives de 2016 à 2018? Ils sont un peu plus vieux. Et là, on a eu l'impression qu'ils ont de nouveau maîtrisé dans un grand match de Ligue des Champions ce qu'ils ne faisaient plus ces deux, trois dernières saisons. Est-ce que c'est votre impression?
Oui, on les a retrouvés.
C'est de là que venaient souvent les victoires du Real Madrid dans la Ligue des Champions, en plus de Ronaldo, évidemment, mais cette maîtrise incroyable au milieu de terrain qui permettait soit de subir, soit de construire, en tout cas de s'adapter à tous les adversaires et finalement de dicter le tempo le plus souvent.
Le tempo est là, mais il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, au niveau du milieu de terrain du Real Madrid, il y a quelqu'un qui vient s'incruster, qui fait beaucoup de travail, c'est-à-dire que vous avez Vasquez. C'est pratiquement quelqu'un qui, à la fois, est défenseur, milieu, attaquant. Il ne se fatigue pas. Or, vous avez quelqu'un d'autre qui chapeaute tout cela, qu'on appelle bien évidemment Casemiro, qui a gagné en technique. Parce que généralement, Casemiro, c'était le physique, mais aujourd'hui, il est beaucoup technique. Mais surtout, il faut lire le travail tactique de Zinedine Zidane. Parce que ce travail tactique de Zinedine Zidane, aujourd'hui, vous voyez par exemple que tout le monde l'attendait dans le système qu'il a montré tous ces derniers temps, c'est-à-dire que le 3-5-2. Et subitement, il revient avec le 4-3-3, alors que de l'autre côté, qu'est-ce que Klopp a dit? Klopp a dit, moi je vais rester derrière et je ne vais pas m'entraîner à Madrid pour que je supplène Zinedine Zidane. Qu'est-ce qu'il a fait? Sachant que Zinedine Zidane allait aligner le 3-5-2, raison pour laquelle il met justement Naby Keita au milieu de terrain, sachant qu'il va jouer dans la verticalité par rapport, par exemple, à quelqu'un qu'on connaît, Thiago Alcantara, qui est dans le jeu de la possession. Et du coup, une fois de plus, Zinedine Zidane a lu le jeu de Klopp avant même de le voir. Comme le dit un proverbe africain, l'enfant en se cachant les yeux croit qu'on ne le voit pas.
Eh ben, vous parlez de Jürgen Klopp, on va l'écouter, Jürgen Klopp. Il était au micro de nos confrères, bien sûr, d'RMC en fin de match et vous allez l'entendre. Il est désolé de la prestation des siens, en tout cas en début de match.
On a rarement aussi mal joué qu'en première mi-temps, parce que d'habitude on joue toujours plutôt bien. Offensivement, notre pressing haut était bon. Dans le foot, il y a beaucoup d'erreurs, donc c'est complètement normal. Mais il faut perdre le ballon dans les bons endroits et c'est pas ce qu'on a réussi à faire. Le Real a récupéré le ballon dans des zones qui leur a donné un grand avantage dans ce match. On a couru derrière le ballon, puis on a pris un but et c'était pas cool. Et puis on a fait une erreur et ce sont des choses qui arrivent. Mais il y a des choses qu'on n'a pas faites avec la possession du ballon qui n'ont pas plu et c'est ça qu'il faut qu'on améliore. Voilà, faire 3-1 au match aller n'est évidemment pas un avantage contre le Real Madrid, mais nous essaierons quand même au match retour de revenir.
Ouais, alors 3-1, effectivement, ça, on peut toujours remonter ça, mais comment comprendre il a été surpris par le Real et par la...
Non, là, je suis désolé avec Rémi, mais là, non, c'est pas une... Enfin, tactiquement, ils ont été bons. Je dis pas le contraire. Zidane a été bon, mais ils ont surtout été bons dans l'intensité. Moi, c'est la grosse différence que j'ai vue entre les deux équipes, c'était l'explosivité. la tonicité des joueurs du Real qui était bien, bien supérieure à ceux du Real, à ceux de Liverpool, pardon. Ouais, il n'y avait aucune flamme dans le jeu de Liverpool, aucune intensité, pas de pressing, pas d'agressivité. Ça, c'était la force de Liverpool de Klopp. Et effectivement, mais c'est un peu à l'image de cette saison de Liverpool qui a des hauts et beaucoup de bas. Il manque de feu, il manque de flamme, d'intensité, ils ne l'ont pas.
Mais le paradoxe, c'est que Naby Keita, il est titulaire au coup d'envoi et on peut attendre d'un joueur aussi percutant que lui qui apporte justement
radical,
cette intensité.
Genre, je vais être radical, je vais couper court sur Naby Keita. Naby Keita, depuis qu'il est à Liverpool, il est constamment décevant. Très honnêtement, c'est une déception ce joueur depuis qu'il arrive à Liverpool. Je ne comprends
notamment
pas pourquoi
Klopp... Notamment à cause des blessures.
Non, il n'y a pas que ça. À chaque fois qu'il revient dans l'équipe, il est décevant. Là, il n'y a pas de blessure sur Naby Keita. Il est juste pas bon.
Et à un moment donné, à Liverpool, on rappelle hein, pour les auditeurs, les sorties, les sanctionnés. Donc vous êtes
bien sûr, mais parce que Klopp a fait un mauvais choix. Il s'en est rendu compte. Il a au moins l'honnêteté de s'en rendre compte. Il change son joueur avant la pause. Il remet Thiago Alcantara. Ça n'a pas été beaucoup mieux. Hein. Même si en début de seconde période, il y a eu un peu plus de maîtrise, mais pas longtemps. Mais clairement, il y a le premier tir de Liverpool est arrivé à la 51e pour le but des Reds de Salah. C'est pas possible de passer 45 minutes en première période sans tirer une seule fois au but. Et ça, c'est pas Liverpool.
Mais ce qui est surprenant, c'est que Naby Keita, il est pas assez bon selon vous. C'est un joueur
pas
de percussion.
Pas que selon moi, selon les supporters d'accord, de Liverpool, selon les observateurs anglais.
Admettons qu'il soit pas assez bon, mais il est remplacé par un joueur qui a un profil totalement différent, Thiago Alcantara, dont on se demande quand même aussi depuis son arrivée l'été dernier, un peu comment il arrive, s'il peut s'adapter à cette équipe. Et c'est un joueur d'un style totalement différent, le jeu plus posé, plus de possession. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression, à travers ces choix de joueurs discutables, à travers ces options tactiques complètement contradictoires et à travers ce qu'on voit depuis quelques semaines, que Klopp, il sait plus vraiment où il va tactiquement avec cette équipe.
Non, alors là, non, là, on va loin. Non, non, Jürgen Klopp n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain.
Non, je ne dis pas ça, mais que, on sent qu'il n'y a plus de ligne directrice.
Le problème, c'est qu'il n'a plus de charnière centrale. Donc, il est obligé de bricoler des gens en charnière centrale. Il a
Sans cesse.
Il a un défenseur.
Et c'est jamais Fabinho.
Il y a eu Fabinho à un moment donné qui a rendu service. Sans on s'est rendu compte que c'était compliqué.
Il n'est plus au milieu de terrain.
Il l'a ramené au milieu de terrain, ce qui est beaucoup mieux pour Liverpool. Trent Alexander-Arnold fait une saison catastrophique, à part ce week-end où il s'est réveillé, et là il retombe dans ses travers, il est catastrophique ce soir. Et au milieu de terrain, ils se sont fait bouffer tout simplement dans l'intensité. Mm-hmm. Mais il n'y avait pas que Naby Keita. Les deux autres, Wijnaldum et Fabinho, ils se sont fait bouffer dans l'intensité. Ils se sont fait marcher dessus par des trentenaires, par Toni Kroos, par Modric, par Casemiro et par Benzema. Parce que moi, je rajoute Benzema dans le milieu de terrain, qui a été exceptionnel ce soir. C'est des trentenaires qui ont donné la leçon à Liverpool ce soir. C'est pas des, pour moi, c'est pas les jeunes, c'est vraiment les trentenaires, les vieux briscards du Real.
On va écouter un de ces jeunes aussi du Real Madrid, Ferland Mendy, évoquer les consignes qu'avait donné Zinedine Zidane juste avant la partie.
On avait des consignes, c'était d'aller les chercher, de ne pas les laisser jouer, de ne pas les laisser centrer, parce qu'ils centraient un peu de loin aussi. Donc c'était les conseils du coach et on les a bien faits.
Alors les consignes, effectivement, Rémi, c'est on suit le patron Zidane.
Ah oui, mais c'est ça. Et là, il est clair. Ne pas les laisser centrer. Première des choses, Sadio Mané s'est retrouvé en train de défendre sur Lucas Vazquez. Ce qui signifie que si Sadio Mané ne peut pas déborder, il n'y a pas de solution. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire que quasiment lorsque Salah voulait s'excentrer, il était cherché, c'est-à-dire que même à la ligne médiane, directement, Nacho le suivait là-bas. Donc, il n'y avait pas de possibilité. Et maintenant, quand on essaie de regarder de l'autre côté, contrairement à ce qu'il dit, bon, oui, vous pouvez bien me dire que l'équipe, voilà, c'est Naby Keita. Mais non, cette équipe-là, bien évidemment, n'était pas aussi...
C'est elle sort quand même. J'ai pas dit c'est Naby Keita. J'ai dit tout le milieu de terrain est passé au travers, voilà. Et derrière, ils sont passés au travers.
Voilà, c'est-à-dire que mais quand même, beaucoup. Cette équipe-là, il faut souligner, tout le monde était en train de l'apprécier puisqu'elle sort quand même de 3 victoires avec 3 clean sheets. Donc, quelles que soient les blessures, n'évoquez pas les blessures parce qu'au niveau des blessures en Europe, Zinedine Zidane en a reçu 41. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une équipe ayant eu autant de blessures. Mais maintenant...
Enfin, Liverpool, ils ont été bien servis.
Liverpool,
Non.
Presque autant.
Le Real est la meilleure au monde, actuellement.
Ah, vous ne pouvez pas nier qu'ils jouent quasiment sans leur défense centrale type depuis le début de la saison. Ce n'est pas une invention pour Liverpool.
Oui, mais n'oubliez pas quand même...
C'est une équipe qui était particulièrement chanceuse
du Real, c'est-à-dire que Hazard n'est pas là, le capitaine du Real,
non,
Sergio Ramos, c'est très important par rapport à machin et tout.
C'est vrai.
Voilà. Il y a eu un autre match dans la soirée, donc on va y venir. Mais juste une dernière question pour vous, Bruno. 3-1, match retour. Est-ce que ça va être très compliqué pour cette équipe de Liverpool, ou elle va réussir à se transformer pour le match retour?
Si Liverpool...
Parce que pour leur saison, c'est très important.
Bien sûr, bien sûr. Si Liverpool pouvait compter sur son public d'Anfield, je dirais que ce serait largement possible. Et on l'a vu face au FC Barcelone il y a peu de temps. Malheureusement, ils vont jouer dans un Anfield qui va être vide. Et cette saison, en Première Ligue, ils sont en grande difficulté à domicile. Donc forcément, c'est compliqué. Le seul petit espoir, c'est vraiment ce but à l'extérieur qui leur permet effectivement d'avoir cet espoir de deux buts. Deux buts, ils sont qualifiés s'ils n'en prennent pas.
Rémi vous regarde.
Mais on est qu'à la mi-temps d'un match. Il y a eu tellement de renversements cette saison.
Oui, juste, je voulais rappeler que c'est bien, mais sauf que Zinedine Zidane, lorsque vous savez quand même qu'il remporte chaque trophée après 22 matchs et qu'il était à son 50e match et qu'il n'a perdu que 9. Bon, et ce n'était pas dans des matchs à éliminatoire direct comme ça. Là. Donc, commençait déjà à beaucoup trembler.
31 victoires, je crois, sur les 50 matchs.
Rémi, 32 victoires.
C'est sa 32e victoire?
32.
En Ligue des Champions, j'ai vu 31, mais bon, en tout 32. Cas, on est à...
C'était la 32e, et puis il y a 9
Rémi, rappelle-moi, la saison dernière, le Real de Zidane a bien été éliminé par Manchester City.
Ah oui, mais...
Il avait perdu le match aller.
Il avait perdu le match aller.
Donc ça arrive.
À domicile.
Donc
c'est la seule fois sur 9 matchs.
Zidane peut être éliminé.
Mais c'est pour ça que j'ai parlé de 9 défaites.
C'est la seule fois sur 9 matchs, sur les 9 derniers matchs à élimination directe, qu'ils avaient perdu d'ailleurs. Allez, on continue. Il y a eu un autre match donc dans cette soirée. Et là, c'était Manchester en Angleterre. Manchester City, Borussia Dortmund.
Ouverture du score en faveur de Manchester City, De Bruyne.
Il a tout fait, Kevin De Bruyne.
C'est De Bruyne
qui a tout fait sur cette action. Il a décalé Phil Foden sur la gauche, qui a centré pour Riyad Mahrez, qui a pu contrôler le ballon dans la surface, se retourner, la passer du gauche à 5 mètres, à 6 mètres des buts à Kevin De Bruyne, qui n'a plus qu'à fusiller Hitz, le gardien de Dortmund. Et il n'a pas raté, hein, son plat du pied, c'est facile, aussi proche des buts, 1-0. Qui égalise, c'est Marco Reus. Il égalise à la 83e minute. Très très bonne opération pour Dortmund. Passe décisive, je crois que c'est pour Erling Haaland. C'était un contre, une récupération haute. Il est décalé sur le côté gauche de la surface. Il se retrouve en face à face, plat du pied opposé. Ça fait donc un partout.
Et le but, il est marqué par Phil Foden, justement, dont on a beaucoup parlé depuis le début de cette soirée.
Et voilà, les Citizens l'emportent sur leur pelouse. Manchester City, on sait la passion que peut avoir cette équipe pour la Ligue des Champions et surtout l'envie de la remporter. Bruno, Constant, est-ce que les hommes de Pep Guardiola ont vaincu cette malédiction ce soir ou pas encore vraiment?
Ben non, parce qu'il reste un match retour.
On est à la mi-temps.
Et qu'on ne sait jamais avec le City de Pep Guardiola, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un match. On a même tremblé un peu au moment de l'égalisation de Reus. On a vu Guardiola, comme à son habitude, il prend sa petite bouteille d'eau, le regard un peu perdu. Il n'a pas compris ce qui se passait. Et voilà, City est capable encore malheureusement de faux pas comme ça, de déjouer par moments. Je trouve que parfois ils ont déjoué ce soir, mais le fait d'avoir trouver les ressources, le caractère pour s'imposer vraiment en toute fin de match avec ce but de Foden, c'est que voilà, il se passe peut-être quelque chose à City cette saison. Je dis bien peut-être. Ils sont encore en course sur les 4 trophées, le championnat qu'ils vont remporter en Première Ligue, la FA Cup, la finale de la Coupe de la Ligue qu'ils vont disputer face à Tottenham à la fin du mois. Mm-hmm. Et donc ce quart de finale retour de Ligue des Champions, ils sont en bonne position. Ils vont à Dortmund avec ce but d'avance. Mais on a vu que Dortmund avait du répondant. Et franchement, quand on les a vus jouer ce week-end, perdre à domicile, on s'est dit mais rien ne va dans cette équipe de Dortmund. Et ils ont aussi eux trouvé les ressources. C'est une saison particulière, on a du mal à jauger le vrai niveau des équipes.
Il y a des surprises effectivement tout le temps partout. Hugo, alors Haaland là n'a pas marqué, hein, mais c'est lui qui fait la passe décisive à Marco Reus.
Magnifique d'ailleurs.
Vraiment une très bonne entente. Et on a vu après la colère de Reus quand ils ont pris ce deuxième but de City, la déception parce que certes ils ont marqué ce but à l'extérieur, puisque ça compte encore. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même, ils sont plutôt bien débrouillés, là, le BVB.
Oui, donc c'est pour ça que vous dites qu'il se passe peut-être quelque chose à City. On attend quand même toujours un match référence de City avec Guardiola. Ça aurait pu être l'an passé contre le Real Madrid. Oui, sauf que derrière, Lyon vient un peu gâcher le tableau.
Champions, la Ligue des Champions, à chaque tour, c'est un nouveau match référence.
Ce que je veux dire, c'est qu'on se plaint souvent du fait que la magie Guardiola, elle opère en Première Ligue, et encore cette saison. Et en Ligue des Champions, il y a comme un blocage et il va tenter peut-être des subtilités tactiques qui n'ont pas forcément lieu d'être. Il y a un blocage peut-être dans la tête de ses joueurs, ou lui a un blocage dans sa tête qui l'insuffle à ses joueurs. Bref, il y a quelque chose, il y a une alchimie qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de retrouver ça face à une équipe? Alors certes, il y a Haaland, en fait. Certes, il y a Reus, mais on ne parle pas tout à fait de la plus grande équipe d'Europe, le Borussia. Et pourtant, voilà, c'est beaucoup plus équilibré qu'on pouvait le penser.
Mais moi, je ne suis pas surpris, parce que Dortmund, il y a quand même des joueurs de talent dans cette équipe.
C'est une équipe mais qui est méconnaissable. Une saison, cette équipe.
Non, mais c'est une équipe qui est méconnaissable en championnat. Ouais. Mais en Ligue des Champions, elle est plutôt intéressante. Comme Liverpool était méconnaissable en Première Ligue, et jusqu'à présent, en Ligue des Champions, ouais, ils étaient excellents. Donc non, je ne suis pas surpris. Ça reste un quart de finale de Ligue des Champions, il ne faut pas l'oublier. Ils ont un avantage à l'aller. Moi, je trouve qu'ils ont plutôt fait un match correct dans l'ensemble, assez solide. Et franchement, il y a même des situations où Dortmund aurait pu mériter d'avoir un but accordé sur la faute qui est donnée sur Ederson. C'était très limite. Donc non, c'est vraiment un vrai combat entre deux équipes plutôt de bonne qualité, avec City qui a un léger avantage.
Rémi ?
Je peux être d'accord avec lui, sauf que effectivement, ce but de Bellingham, je l'ai revu là, et je me suis posé jusqu'à présent la question, pourquoi est-ce que l'arbitre ne l'accorde pas ? Donc quand même, c'est...
Un but de Dortmund.
Dortmund, de Bellingham, et puis... Vous voyez quand même que Nauf est un jeune de cette envergure-là. L'équipe de Dortmund était quand même trop, trop jeune. Elle a réussi à créer de sérieux problèmes à cette équipe de Pep Guardiola, qu'on dit vraiment technique. Mais une fois de plus, Pep Guardiola a déçu parce que...
Ils ont gagné 2-1.
Ils ont gagné contre le 5e de la Bundesliga 2-1, et félicitations à eux à domicile. Donc c'est magnifique pour toi.
Le Real a gagné contre le 5e de la Bundesliga.
Donc actuellement, si vous êtes en train de dire, c'est le champion d'Europe, n'oubliez pas. Donc si vous êtes en train de parler de cette équipe de Dortmund qui joue avec les
Bayern Munich, hein,
avec les biberons,
ça compte pas l'année dernière.
Voilà. Donc tout ce que vous êtes en train de me dire aujourd'hui, là, lorsque j'essaie de regarder cette équipe de Pep Guardiola avec Bernardo Silva, qui a aujourd'hui joué en fou numéro 9, moi, je n'ai pas vu le danger se créer en tout moment.
Bernardo Silva a joué en faux numéro 9 à Bernabeu l'année dernière contre le Real, ils ont gagné 2-1. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui ne marche pas, ça marche. Et d'ailleurs, ça a marché ce soir, ils se sont imposés 2-1.
Hugo ?
Bon, c'est quand même la spéciale de toute façon de Guardiola, le faux numéro 9. Oui, vous parliez des jeunes de Dortmund. Moi, je voudrais parler d'un vieux qui a réussi, Marco Reus. Tenter le jeu de mots, mais ça passe moins bien à l'oral. Je crois, alors je vais revérifier, mais il me semble avoir vu passer qu'il devient le meilleur buteur de l'histoire du Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Je crois 18 réalisations. Alors c'est un peu anecdotique, mais ça permet quand même toujours de se féliciter de revoir ce joueur qui aurait pu être l'un des meilleurs joueurs de sa génération, et pas qu'allemand, meilleur joueur tout court de sa génération, qui a souvent été blessé et qui là du coup est encore là en 2021 pour marquer des buts en quart de finale de Ligue des Champions. Donc c'est plutôt un clin d'œil sympa à ce super joueur.
Ouais, et puis il y a un jeune, moi j'ai beaucoup aimé le petit anglais Jude Bellingham, qui joue au milieu de terrain à Dortmund, qui n'a pas encore 18 ans, qui est un joueur formidable, qui a été très influent dans ce match, qui aurait pu bénéficier effectivement du but à cause de la faute sur Ederson, dont on parle beaucoup aussi peut-être pour intégrer la liste de Gareth Southgate, la liste des 23 anglais pour l'Euro. Donc c'est un joueur à suivre, et moi il m'a épaté ce soir dans un match d'une telle importance, d'une belle maturité à 17 ans seulement.
Voilà pour ce qui est donc des matchs de la soirée, et rappelons eh bien que demain il y a une autre soirée. On va le faire assez rapidement parce que on va aller ensuite à nos joueurs africains, mais j'aimerais avoir votre avis à tous les deux sur les matchs de demain, à tous les trois, pardon. Commençons et évoquons ce PSG qui va jouer au Bayern Munich. On a beaucoup d'absents des deux côtés de l'équipe. Écoutons quand même quelqu'un qui, peut-être, qui sait, va jouer les troubles faits. C'est lui qui va emmener l'attaque du Bayern Munich. C'est un ancien Parisien, je crois que vous le connaissez, Rémi.
C'est une drôle et belle histoire avec le PSG. Je suis impatient car j'ai passé de très bons moments à Paris et je me suis fait de bons amis là-bas. Alors c'est vrai, ce sera un match un peu spécial pour moi. Il n'empêche, je veux le gagner et bien sûr, aller au prochain tour, c'est le plus important.
Cet ancien Parisien, Rémi, le Camerounais, Eric Choupo-Moting, est-ce qu'il pourrait jouer un mauvais tour à ses copains du PSG qu'il est content de retrouver sur le terrain?
L'histoire nous apprend ça. C'est Coman qui a donné.
Exactement.
C'est l'histoire du PSG particulièrement. Oui. C'est la grande histoire du PSG, c'est d'être crucifié par un ancien joueur, et notamment un ancien joueur dont on n'a plus voulu.
Oui.
Généralement, c'est le retour de karma est toujours assez violent.
Oui, parce que là, de surcroît, quand on essaie de regarder la forme quand même de Choupo-Moting, c'est quelqu'un qui a réussi à s'imprégner et à entrer dans le moule. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a, ce qu'on peut dire, une hargne vengeresse de pouvoir montrer à son ancien club que je jouais juste les cireurs de banc, voire les porteurs de sacs.
Voilà, c'est toujours un peu le cas. Mais il a été titulaire le week-end dernier grâce aux circonstances, entre guillemets.
Mais... Devrait-on signaler qu'il a déjà joué au Bayern, plus que tout le temps qu'il a passé au PSG.
25 apparitions pour 5 buts, toutes compétitions confondues.
Donc, au moins, ça dépasse le quota du PSG. Donc, aujourd'hui, c'est un joueur qui a retrouvé un peu de sa substance et surtout de la confiance, ce qui est très important concernant Choupo-Moting. Et comme le dit malheureusement un proverbe africain, c'est le chien que tu as chassé de chez toi qui finit par te mordre.
Hugo.
Rappeler que son dernier but parisien, c'était en quart de finale de la Ligue des Champions, déjà, puisque c'était contre l'Atalanta Bergame.
C'est lui qui qualifie le Paris Saint-Germain.
Il avait été sorti de la liste même des joueurs éligibles pour la Ligue des Champions. Il était revenu à la faveur du départ de la fin de contrat d'Edinson Cavani. Et c'était comme ça qu'il avait pu entrer en cours de jeu, un peu en désespoir de cause, parce que je pense que Tourelle n'avait pas vraiment planifié l'entrée décisive de Choupo-Moting et il avait délivré contre l'Atalanta une passe décisive et un but dans les derniers instants pour qualifier le PSG en demi-finale.
Alors pourquoi il mènera l'attaque hein, c'est parce que Robert Lewandowski est blessé et aujourd'hui on a appris que Gnabry était touché lui aussi par le Covid-19 et donc qu'il ne pouvait pas disputer ce match. Un petit mot juste vous Bruno Constant, Chelsea, FC Porto, un match qui se jouera à l'aller comme au retour à Séville pour des raisons sanitaires, là aussi encore le Covid. Est-ce que ce match, Chelsea a enregistré sa première défaite ce week-end, le premier après 14 matchs sans perdre, disons, avec Tuchel.
Ouais, puis dans les conditions assez étranges, 5-2 à domicile face au 19e de la
première
ligue.
Voilà, exactement.
Alors certes, il jouait à 10 contre 11 pendant une heure.
Thiago Silva exclu.
Mais c'est une défaite qui a choqué, qui a surpris, qui a eu des répercussions, parce que le lendemain, à l'entraînement, il y a eu un accrochage entre Rudiger, le défenseur allemand, et le gardien remplaçant Kepa. Donc voilà, il y a un peu de tension dans le vestiaire, même si Tuchel dit que tout s'est rangé. Chelsea s'avance en position de très très grand favori face à Porto. Il va falloir qu'ils assument ce statut parce que voilà, il y a un match à jouer et que Porto, on se souvient qui ils ont éliminé au tour précédent, c'était la Juve avec deux matchs pleins des joueurs de Porto. Donc voilà, Chelsea n'a pas le droit à l'erreur. Là aussi, il y a beaucoup de pression. Tuchel doit qualifier le club pour la prochaine Ligue des Champions et rapporter un trophée. Et la Ligue des Champions en fait partie.
Et on a vu cette équipe de Porto au match précédent, au tour précédent, huitième de finale, jouer un fort mauvais tour à la Juventus de Turin et réussir à se qualifier face au grand Cristiano Ronaldo. Donc tous les espoirs sont permis pour cette équipe portugaise qui est la grande surprise jusqu'à présent de ces huitièmes de finale. Allez, on continue. Je vous avais promis qu'on parlerait du prix Marc-Vivien Fauré et surtout du 11. 11 des joueurs qui pourraient, parmi lesquels se trouvera le gagnant. Je vous propose d'écouter cette présentation qui nous est faite avec l'aide de Christophe Jousset.
Marc-Vivien Fauré, ambassadeur de l'UNICEF au Cameroun.
Prix Marc-Vivien Fauré, RFI France 24.
Malgré la pandémie qui vide les tribunes, malgré le confinement, le troisième généralisé en France, le ballon roule sur les pelouses françaises et les équipes disputent presque normalement la Ligue 1. Il y aura donc cette année encore un lauréat du prix Marc-Vivien Fauré. Alors qui pour succéder au Nigérian Victor Osimhen, parti de Lille hein, depuis pour jouer à Naples? Eh bien, pour lancer ce prix, Christophe Jousset donc, est avec nous pour vous présenter le 11 des joueurs africains. Où se trouvera donc l'élu du vainqueur de la saison 2020-2021, Christophe, c'est ça?
Oui, on aurait pu en mettre un petit peu plus, peut-être 11, 12, 13, 14, pourquoi pas. On a choisi de s'en tenir à 11 prétendants. Je vais vous donner la liste, alors par ordre alphabétique, hein, pour pas qu'on puisse penser qu'il y a du favoritisme. Ça commence par un A comme Aguerd, Naïf Aguerd, le défenseur marocain du Stade Rennais. Ensuite, nous aurons le milieu de terrain du FC Metz, Farid Boulaya. Un autre Algérien dans la foulée, l'attaquant de Montpellier, Andy Delors. Boulaïdia, l'attaquant sénégalais du Stade de Reims, est dans la liste également. Seko Fofana, le milieu de terrain du Racing Club de Lens, est là. Ça a l'air de plaire à Naïm. Et puis Idrissa Gueye, bien sûr, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. À K comme Kadewere, on a Tino, l'attaquant, l'autre attaquant de l'Olympique Lyonnais. Son compère est dans la liste. On va le retrouver un petit peu plus tard. Gaël Kakuta, le milieu de terrain du Racing Club de Lens. Ça plaît aussi à Naïm. Aurait-il un tropisme lensois? Alexandre Oukidja, le gardien du football club de Metz, le gardien algérien du football club de Metz.
Troisième algérien de la liste.
On a également, effectivement, les champions d'Afrique sont là. On a également le défenseur mozambicain de Lille, Reinildo Mandava. Et puis, pour terminer, le 11e, toujours par ordre alphabétique, Karl Toko Ekambi, l'attaquant camerounais de l'Olympique Lyonnais.
Ancien lauréat de ce prix, hein, Marc-Vivien Fauré. C'est donc une liste difficile à établir, Christophe, au vu de tous les Africains qui évoluent en Ligue 1.
Bah, il y a toujours beaucoup de clients. C'est vrai que bon, on a eu pas mal de discussions avec le Refe, Alejandro Valente, avec David Calfa et d'autres, bien entendu. Alors il y a tout de suite ceux qui se dégagent, ceux qui s'imposent, et puis il y a la liste de ceux qui sont à la limite d'être dans la liste des finalistes, et puis ceux qui sont juste au-delà de cette limite. Ça donne toujours lieu à des débats assez serrés.
Évoquons un peu chacun, je sais pas, vos... Alors, on vous a vu danser sur les noms, surtout sur la musique, bien sûr, mais sur les deux noms du Racing Club de Lens. Naïm Ognol,
c'est très simple. Moi, en fait, je regarde, en plus de la performance individuelle, je regarde toujours ce qu'ils amènent au collectif. Seko Fofana, cette saison, c'est un joueur qui fait une très bonne saison individuellement, dans ce qu'il amène au milieu de terrain, son impact, ses prises de balles, ce qu'il est capable de générer d'un point de vue purement technique. Et surtout, il s'imbrique parfaitement dans cette équipe de Lens qui est au-delà de la bonne surprise, parce qu'un promu, même si c'est Lens, un promu qui est cinquième, c'est une surprise, même si on connaît Lens ou machin.
Et c'est pas un hasard.
Mais c'est pas un hasard parce que c'est pas l'équipe de Ligue 2 qui fait une bonne saison Ligue 1, comme finalement on en a vu plein, et puis qu'il l'année d'après, on sait pas ce que ça donne. Il y a un vrai fond de jeu. C'est cohérent, tous les joueurs sont bien dans le projet, tout va bien ensemble. Et Seko Fofana, je trouve qu'il incarne parfaitement, lui qui aurait pu rester en Italie la saison dernière, qui a décidé de revenir à Lens, de faire quelque chose de formidable. Il est très bon, c'est mon chouchou, pour moi c'est le meilleur Africain cette saison Ligue 1. Et en deux, Kakuta, parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend finalement, que pour une fois qu'il fait une saison pleine, je suis heureux.
Et
pour Seko Fofana, c'est vrai qu'on a aussi vu un Lens moins bien lorsqu'il était blessé. Justement lorsqu'il était... Absent. Lens était dans le dur, comme par hasard en revenant, on avait un Lens bien meilleur, comme quoi ça illustre aussi les performances du milieu de terrain.
Oui, le Racing Club de Lens qui est actuellement peut-être le meilleur promu d'Europe, hein, tout simplement dans le championnat de France. Philippe, peut-être un petit mot sur cette liste.
Non, ce qui est intéressant.
Ça vous plaît?
Oui et non, c'est-à-dire que oui, parce que c'est tout à fait conforme. Non, parce que je vois pas de nouveauté en fait. Il y a pas de découverte. Il y a éventuellement des retours ou des joueurs qui se révèlent sur le tard, des Kadewere. Ou Seko Fofana qu'on attendait il y a des années et des années, puis qui tout d'un coup arrive enfin. Exactement. Mais sinon, il y a pas de révélation. Alors. C'est vrai que c'est plus émoustillant quand tout d'un coup on a un Osimhen qu'on découvre. Enfin bon, on l'avait pas vraiment découvert, mais enfin bon, quand même, au haut niveau en tout cas. Donc voilà, bon, c'est une observation comme ça, mais pas défaitiste, hein, c'est pas grave. Non, pour non. Le reste, il n'y a pas d'erreur.
C'est
sur
des confirmations, peut-être.
Et c'est très bien.
Parce qu'il y en a qui étaient sur la liste l'année dernière.
Il y a un naïf à Guerde, peut-être, pour ouais. juste nuancer un peu. On avait eu, sur les deux, trois dernières saisons, Younis Abdelhamid, qui était d'ailleurs sur le podium l'année dernière
oui, défenseur
du stade de Reims, mais qui est un peu moins bon cette année. On a dans l'ensemble pensé que Aguerd, avec ce qu'il a fait pour le Stade Rennais, avait sa place dans le 11.
Oui, puis enfin je veux dire, bon, c'est vrai que tu n'as pas une révélation, mais après tu peux pas avoir des révélations non plus tous les ans. Après, si tu prends Aguerd, c'est vrai que c'est quand même un garçon que t'attendais peut-être pas à ce niveau cette saison. Boulaya et même Oukidja à Metz font des grosses saisons, et là non plus t'attendais peut-être pas Metz à ce niveau, même s'ils sont un petit peu moins bien là depuis 4-5 matchs, tu les attendais peut-être pas à ce niveau cette année. T'as quand même Fofana et Kakuta qui sont aussi dans une équipe de promus qui tourne très bien. Renildo, dans une équipe comme Lille, quand t'as Célie, quand t'as Font, enfin tu penses pas forcément à Renildo tout de suite.
Non, donc, on pense pas à Renildo. Renildo, en fait, d'abord, c'est bien d'avoir des défenseurs parce qu'on ne peut pas s'arrêter seulement aux stats avec le nombre de buts et le nombre de passes décisives. Oui, c'est vrai qu'on peut.
Parce qu'il y a des latéraux, il y a un gardien, il y a de quoi faire une équipe.
On a quatre attaquants, quatre milieux de défenseurs et un gardien.
Philippe dit qu'il n'y a pas de révélation, c'est pas nouveau. Oui, mais enfin, t'as pas non plus d'énormes stars là-dedans. Tu te dis pas, bah lui, c'est logique, hein, on savait très bien que ça allait être lui dès le mois de novembre. T'en as 5-6 qui se sont tirés la bourre un peu très longtemps et même encore maintenant. Après, c'est vrai que moi, ce que je regarde, c'est vrai que Kadewere, quoi qu'il arrive, il a réussi sa saison. Il arrive du Havre, il a 25 piges, il met 10 buts à Lyon. Ouais. Vous vous rendez compte, dans le secteur offensif de Lyon, avec des deux pailles, c'est une saison réussie. Toko Ekambi, c'est très bien aussi de mettre 11 buts en Ligue 1, c'est génial. Mais à la rigueur, ils sont à Lyon. C'est une équipe qui est structurée, surtout qu'ils n'ont pas fait l'Europe cette année. C'est une équipe qui est structurée finalement pour être sur le podium. Lens, le simple fait, s'ils étaient 12e à ce moment de la saison, on dirait que c'est une bonne saison parce qu'ils sont maintenus. Et au final, ils ont autour d'eux des bons joueurs, mais il n'y a pas l'équipe bâtie pour être là où ils sont. C'est-à-dire que le talent que ces joueurs-là amènent, entre autres, hein, on pourrait parler aussi de plein d'autres joueurs à Lens, mais en l'occurrence, on parle de deux. Ce qu'ils amènent aussi à cette équipe, ça permet à un promu d'être peut-être l'équipe qui pratique le plus beau football ou une des équipes qui pratique le plus beau football de Ligue 1 cette saison. Donc c'est formidable en fait.
Oui, et puis on va juger aussi l'ensemble de la saison. C'est vrai que si on regarde sur les premières journées, Ganago, on le voyait gros comme une maison. Malheureusement pour lui, il s'est blessé, mais il était parti comme une balle. Et c'est sur ces 30 premières journées qu'on évalue la trajectoire de chacun. On ne s'attarde pas trop sur le dernier week-end, parce que finalement, sur les quelques gros noms qui ressortent, Kadewere, Toko Ekambi ou même Andy Delors, ils n'ont pas été très très bons
Andy Delors,
ce week-end.
Pas dans la liste sur ce week-end.
on restera plutôt sur les performances de l'ensemble de la saison. Alors c'est vrai que Kakuta, s'il venait à gagner, pourquoi pas, ce serait le premier Congolais quand même à gagner ce prix Marc-Vivien Fauré, organisé par RFI et France 24. Et puis Karl Toko Ekambi, on voit son nom aussi qui clignote parce qu'il serait le deuxième s'il réussissait à gagner, à faire le doublé après Gervinho.
Après Gervinho, qui avait fait aussi le doublé. Alors ce sera le 13e prix Marc-Vivien Fauré, puisqu'on avait commencé en 2009 sur RFI. Certains sont toujours dans la lumière. Je pense à Pierre-Emerick Aubameyang, qu'on avait eu tant de plaisir à recevoir dans le studio. À l'époque, il était à Saint-Etienne. Entre-temps, il est passé par Dortmund pour être toujours à Arsenal, où il marque, comme son camarade d'ailleurs Nicolas Pépé, lui parti de Lille à Arsenal. Et puis justement, Toko Ekambi. Alors, le vote est ouvert à partir de maintenant. Le jury est composé d'une centaine de personnes. Alors messieurs, vous en faites partie, hein, tant Naïm Moniol que Salim Baumgali, Philippe Doucet, Christophe et moi, et puis l'équipe des sports de RFI, l'équipe de Radio Foot. On est un certain nombre et des spécialistes aussi du football français et extérieur. Et le résultat, ça sera connu quand finalement? Il y a plusieurs étapes, Christophe?
Il y a plusieurs étapes. D'abord, comme vous le dites, le jury réuni par RFI et France 24 va commencer à voter dès ce soir, parce que là, je sors du studio, j'envoie le courrier
tout de suite
et c'est parti. On aura les premiers retours dès ce soir. On demande aux jurés en fait de choisir 3 joueurs dans les 11, en donnant 5 points au premier, 3 au deuxième et 1 point au troisième. Et puis ensuite, on fait le total. Hein. 29 avril, on aura le trio de tête. On sera en mesure de le révéler, le trio de tête. Et puis le nom du
lauréat
sera révélé le lundi 17 mai.
Dans Radio Foot ? Non. Le matin, enfin, dans...
On verra. On verra.
Vous allez réfléchir. En général, nous, on a l'invité et donc
on
le sait déjà.
C'est pouvoir accéder directement au lauréat parce que c'est vrai que le Covid...
ne nous aide pas.
Ne nous aide pas beaucoup.
C'était devenu compliqué, mais on essaye en tout cas et on essaye de faire au maximum. Et sur le site de RFI, vous pouvez dès à présent retrouver sur les pages africfoot.fr et bien... tous les détails sur ce prix Marc Vivien Fauet avec des articles eh bien, d'un des inventeurs de ce prix, David Kalfa, et aussi de Farid Achache. On a tout dit, Christophe Jousset ?
Pour l'instant.
Pour l'instant.
Merci de votre accueil.
Vous revenez quand vous voulez pour parler et reparler du prix Marc Vivien Fauet qui est donc lancé officiellement sur RFI aujourd'hui. Merci Christophe.
À bientôt.
Alors, ce prix Marc-Vivien Fauet lancé aujourd'hui, j'aimerais votre commentaire, messieurs, parce que vous faites aussi partie de ce jury d'une centaine de personnes. Commençons par vous, Rémi. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette liste ? Est-ce que pour vous, quelqu'un se détache ?
Difficile que quelqu'un se détache, mais...
On vote jusqu'au 29 avril, hein, il y a encore un peu de temps.
Pour l'instant, je peux quand même dire que s'il y a quelqu'un qui s'est beaucoup détaché, parce que je ne pouvais pas imaginer que Dia pouvait figurer... rapidement comme ça là, parce que dire quand même qu'il était presque au fond du trou.
Boulaïdia,
oui,
le buteur du Stade de Reims.
Voilà, donc,
oui, et le Stade de Reims allait mal aussi.
Je regarde aussi ce que les techniciens des autres pays et les grands clubs font comme choix par rapport à certains joueurs qui évoluent dans notre championnat. Donc du coup, je me rends quand même compte que Naples, AC Milan, ou même des clubs anglais, sont derrière lui pour un joueur quand même qui était presque en 4e division il y a tout simplement 3 ans. Donc il y a une grande marge de progression, même s'il a quand même 24 ans, il faut se le dire. Mais aussi, je crois que Karl Toko Ekambi a réussi un véritable comeback. On se moquait beaucoup de lui, peut-être à Lyon, mais quand on voit véritablement qu'aujourd'hui, Karl Toko Ekambi est assez constant, je peux dire, oui, pourquoi pas. Gaël Kakuta.
Bruno Constant, vous ?
Ben moi, je vais être dans la lignée de Naïm Moniol. Je trouve qu'il y a les deux Lensois qui, pour moi, se dégagent. Fofana, Gaël Kakuta, je mets un peu à part parce que Gaël Kakuta, comme il le dit si bien, c'est vrai que c'est un talent qu'on attend depuis, je sais pas, 6-7 ans maintenant.
Il a pour lui d'avoir une histoire, quelque part, de raconter une histoire.
Bien sûr.
Que ce prix pourrait venir couronner. Je sais pas du tout. Je dis pas que c'est ma préférence, non, mais ça joue aussi. Il y a une espèce d'affect dans cette histoire et qui peut influencer. Je pense.
Je vois ce que tu veux dire parce que moi je l'ai connu à Chelsea quand il arrivait tout jeune. Une erreur de jeune joueur parti dans un grand club étranger où c'était très compliqué.
Trop tôt.
Et beaucoup trop tôt. Il y a eu tellement d'exemples comme ça. Et il a eu la force, vraiment la force de caractère de rebondir, allant parfois des choix de clubs comme Dijon. On ne l'attendait pas du tout. Et il illustre un peu la renaissance du RC Lens, je trouve. Et même si pour moi, Fofana est un cran au-dessus sur cette saison. Mais les deux Lensois, pour moi, brillent à travers le collectif du RC Lens. Et puis Kadewere, pour moi, est un joueur magnifique. Si le prix s'était arrêté, on en parlait avec Annie au mois de décembre, ça serait lui le vainqueur, sans doute. Mais la saison, il y a une deuxième partie.
Elle est longue.
La deuxième partie, il est moins bien.
Ouais. Hugo ?
Non, mais ce qui est intéressant dans cette liste, c'est que quelque part, il y a... des logiques très différentes selon les candidats. C'est-à-dire les candidats ne sont pas exactement dans la même sphère. On va s'intéresser à certaines choses pour un candidat, d'autres pour un autre. C'est vrai que Ekambi ou Kadewere ou Ganagay, ils portent les couleurs d'un club qui joue le haut de tableau. Donc forcément, ça les met davantage en valeur. Mais on peut aussi se dire que performer comme Fofana et Kakuta performent avec Lens, un promu, c'est peut-être admirable compte tenu des moyens, compte tenu des ambitions. Du club à la base. On a les histoires individuelles, on parlait de celle de Kakuta. On a plusieurs choses comme ça qui se télescopent, qui font que finalement chacun mettra sa sensibilité, je pense, dans ce prix, même si c'est vrai, objectivement, Karl Toko Ekambi sera, à mon avis, l'un des mieux placés pour réaliser ce qui serait, je crois, une performance historique, à savoir le remporter deux fois avec deux clubs différents.
Gervinho. Ah oui, alors Gervinho l'avait fait, il l'avait remporté lui aussi deux fois, mais c'était avec Lille. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci messieurs d'avoir veillé avec nous. Rémi a un grand sourire. Merci à tous et à demain bien sûr.
7 milliards de voisins, le guide des débrouillards.